Vous rappelez de cela. Bon. Et donc, il est là, mêlé à la vie des hommes. Parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Or, ça fonctionne. Qu'est-ce qui... De quoi je parle? C'est ce passage de la notion Yemot HaMashiach à la notion Melech HaMashiach. Et quand il n'y a pas encore eu de société juive sur la terre d'Israël, eh bien, il était assis à la porte de Rome. Il était en train de sortir. Il était 17 rue Fortuny, mais du côté de la sortie, pas du côté de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que 17 rue Saint-Georges, c'est rien que du côté de la rentrée. Je veux dire... vous comprenez ce que... Bon.
Mais c'est top. Mais...
Attendez. Et quand ils sont ensemble. Et ça fait 34. Mais... Voilà le problème. C'est que... il ne se dévoile pas. Tant que... il y a risque que ce soit un faux messianisme. Tant que la société humaine... Oui, absolument. Bon. Mais il s'agit d'un royaume sur terre.
Ah bon. Mais donc, il faut une époque. Il faut une époque pour qu'il puisse se réveiller.
Cette époque pourrait être ces 2000 ans-là. Et tant que, si on n'a pas mérité, alors qu'on ait mérité ou pas, cette époque, c'est la fin de cette époque. Voilà ce qu'on a appris dans les pas tout à
l'heure. Pour les deux, qui est le minimum? Est-ce qu'il y a un endroit où il est parlé du SMIG religieux?
C'est la question a été posée tout à l'heure. C'est le minimum quantitatif du nombre de personnes pour faire une société. Selon l'enseignement de la Torah, c'est 600 000 âmes, 600 000 Nechamot. Ça veut dire 600 000 juifs qui soient capables de dire « Viens, si tu l'oses, moi je t'attends ». Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire 600 000, 600 000 qui ont la foi et pas la velléité de la foi. Et tous à la fois. Attendez, madame, vous voulez poser une question.
Il y a quelques jours, j'étais frappé, je sais que je suis le seul à avoir vu, et là je voudrais demander, je ne sais pas si vous voulez répondre, sur, en dépassant le politique, les choses, discussions internes en Israël, on a montré l'évolution des maisons palestiniennes en zone occupée. Bon, on a montré cela, et puis avec la littérature, puis on a montré un groupe de jeunes juifs venus d'un kibbutz. Et on a insisté qu'on travaillait même le Shabbat avec les Palestiniens
voilà.
Pour les aider. Alors, où est là? Je voudrais qu'on... Est-ce qu'on peut dépasser là le politique et dire, eux voyaient là la mitzvah, ils voyaient là le monde prochain. Est-ce qu'on peut dépasser ça ou est-ce que c'est dans eux, on entre tout de suite dans la politique et dans la mitzvah?
Je voulais vous en parler, mais enfin, ça c'est de l'idéologie. C'est l'idéologie. Mais j'ai vu cela à la télévision israélienne. Et j'ai vu avec quelle complaisance la télévision israélienne montrait ce genre de choses et pas l'inverse. Et je m'explique. Hein? Ah oui, non, mais je l'ai vu en Israël quand c'est arrivé. Pardon?
Un pauvre enfant de 15 ans a lancé une bouteille contre des soldats juifs. Alors,
oui.
L'armée israélienne est venue lui plastiquer sa maison et les jeunes juifs. Non religieux du Negev à côté étaient si épouvantés, si choqués, immensément. Si d'un kibbutz non religieux, ils sont venus travailler le Shabbat pour reconstruire cette maison, et alors là, voilà une image.
Sans parler du Shabbat, ils ont aussi travaillé le Shabbat.
Non, le Shabbat. J'assistais à cela. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi répondre à madame. Maintenant, si vous voulez que ça débouche dans un débat idéologique, chacun a son vocabulaire, ça va être compliqué. Okay? Alors, essayez d'entendre ma réponse à sa question, pas plus. Et c'est pas la seule fois qu'il arrive des manifestations de ce genre. Par exemple, il y a un an et demi, deux ans peut-être, il y a eu un mouvement de solidarité qui essayait de judéo-musulmans, disons. Je ne dis pas israélo-arabe, judéo-musulmans, en Israël. Un mouvement, un autre exemple, pour éclairer cela, un mouvement de solidarité qui essayait d'amorcer un dialogue entre juifs et arabes, mais au niveau juif et musulman. Comment ça s'est fait? Eh bien, des juifs non religieux, de kibboutzim non religieux, les plus extrémistes en général, je reviendrai sur l'analyse tout à l'heure, si on a suffisamment de temps, j'espère, qui ont décidé d'aller habiter dans des villages arabes et jeûner avec les arabes le jour du ramadan, un jour de ramadan. Okay? Mais ce sont des juifs qui ne jeûnent pas, qui pourrent. Est-ce que c'est clair? Alors, oui, qu'est-ce qui se passe là? La même chose de l'incident que vous avez dit. C'est Dafka, des juifs non religieux, de Kibbutzim, qui ont voulu se solidariser avec les Arabes dont la maison avait été détruite. Les quatre Arabes ont été interrogés, les propriétaires de la maison ont été interrogés par la télévision. Je ne sais pas si on vous a passé ces images là aussi. Ils étaient très gênés de répondre et ils risquaient d'être mis à mort s'ils acceptaient, de l'autre côté, s'ils acceptaient cette solidarité qui venait des Juifs. Alors, complètement, n'en croyant pas leurs yeux, eh bien oui, ça nous arrive, mais pas de commentaires, on n'a rien à dire. Le reporter leur demandait comment vous réagissez. Ah, nous, pas de commentaires. Hein. Surtout pas de commentaires, c'est trop dangereux. Bon, c'est trop dangereux, c'est moi. Et alors, ça, c'est de la complaisance au niveau politique, c'est de la vertu au niveau chassidique. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est de la vertu au niveau chassidique, et nous sommes fiers. Ne croyez pas que je fasse de la récupération. De toutes les façons, ça se récupération. Mais, je vais dire que nous pouvons être fiers que chez les Juifs, il y ait des gens pareils, à une condition, qu'ils n'aient pas le pouvoir politique. Est-ce que c'est clair ? Et alors, ça ne marche pas parce que chez les Arabes, il n'y a pas de gens pareils. Pas encore. En tout cas, c'est l'état des choses. Et alors, il y avait aussi une position, comment dire, anti-juive, sournoise, parce que faire ça le Shabbat, c'est exagéré. Est-ce que c'est clair ? Et pourquoi c'est ça le Shabbat ? Parce que c'est le jour de congé en Israël. Bon. C'est-à-dire, c'est l'idéologie, je ne sais pas si c'est de la morale, c'est l'idéologie. C'est du chassidisme, bon, mais c'est du chassidisme, le chassid chopé. Parce que finalement, nous sommes en guerre. Et ce n'est pas du fait d'Israël qu'on est en guerre.
C'est moi, je me demande souvent s'il n'y a pas des gens
christianisants, pas du tout.
Qui sont peut-être plus mystiques que des gens pratiquants.
C'est possible, mais alors il faut.
Et ça, c'est un problème.
Important. Et il faut régulariser. Il faut régulariser, c'est-à-dire. Il faut judaïser cela tant qu'on est juif. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce milieu dont vous parlez ne rencontre comme visage du judaïsme qui rechercherait dans l'art mystique que des visages de sectes. Et il ne rencontre pas la tradition authentique, la tradition du clan, la tradition de la nation. Il rencontre des sectes. Et alors, ça fait obstacle. Et ce sont aussi, si vous voulez, des cheminements. Je vous inviterai à lire très attentivement le chapitre 30 du Deutéronome. Et vous verrez, ici, la Torah décrit les étapes du retour. Et alors, vous avez une première expression, « Veshavta ad Hashem Elokecha ». Tu reviendras jusqu'à Hashem, ton Dieu. Oui, dans ce mouvement de retour. Est-ce qu'il y a une... Regardez, il y a, je crois que c'est déjà le verset 2 ou 3 du chapitre 30 de la rime. C'est Veshavta ad Hashem Elokecha. Alors, quand tu reviendras, première étape, ça ne concerne pas forcément tout le monde à l'échelle individuelle, mais c'est le programme tel que la Torah nous donne du retour à la fin des temps. Veshavta, c'est un futur, ça veut dire que c'est une promesse. Et en même temps, c'est une mitzvah. Mitzvah pour l'individu, promesse pour la collectivité. Habitué à voir ce clam. Okay? Tu reviendras jusqu'à Hashem Elokecha. Mais à la fin du chapitre, après toutes les tribulations, les péripéties, les transmutations, les transfigurations et les engendrements de ce problème, l'expression qui est à la fin du chapitre, c'est Veshavta El Hashem Elokecha. Alors, je vais essayer de vous expliquer la différence. On va peut-être se rebrancher sur la question de Michel tout à l'heure. Et une première étape où on voit que, qu'ils le veulent ou pas, et à la manière chaotique, non chaotique, dans le désordre, défiguré, camouflé, clandestin, on revient jusqu'à, mais jusqu'à et pas plus. C'est-à-dire les gens qui lisent la Bible, mais pas Dieu. Lecture athée de la Bible. Et tu reviendras jusqu'à ton Dieu, velo ad bichlal. Qui comprend l'hébreu ? Vous comprenez bien. Ad, velo ad bichlal. Okay. Oui, jusque-là et pas plus. Mais comment ce livre-là, d'où il sort, je ne veux pas le savoir. Hein. Le judaïsme n'est pas Dieu. Le judaïsme n'est pas le Shkhanaour. Le Shkhanaour n'est pas la Kashrout. La Kashrout n'est pas le Shabbat. Les discussions des juifs avec eux-mêmes. Okay. Ah oui, ça, mais pas ça. Tu reviendras jusqu'à. C'est clair jusque-là. Okay.
Jusque-là. Bon.
Et alors après, je vous enverrai l'esprit, lisez Ézéchiel avec, et après tu reviendras, El Hachem Elokecha, vers, chez lui, et pas seulement jusqu'à la frontière, enfin la non-frontière. Vous comprenez? Entre temps, qu'est-ce qu'il y a? Vous verrez la différence des expressions. Si vous voulez, on pourrait d'ailleurs prendre un livre que je vous le lise, ce chapitre. Vous l'avez? La différence des expressions, entre temps, on va parler d'amour. Ça veut dire jusque-là, mais sans amour. Et quand l'amour commence, alors c'est chez lui. C'est donc le visage de l'autre, la paix, le problème. Comment ces choses sont liées. Et alors, moi, je suis frappé par ce phénomène de littérature, en particulier en France, de tous ces bons esprits, enfin, comment on dit, les beaux esprits, qui parlent du judaïsme, et qui parlent de la Bible, et qui parlent de la Kabbale, et qui parlent de tout ce que vous voudrez, et ça, et le reste, et ça, et le reste, mais... Et où est le Dieu des Juifs là-dedans? Et où est l'essentiel? Vous comprenez ce que je dis? Et surtout, il faut voir ça comme des athées. Alors imaginez un non-juif qui assiste à cette résurrection de l'âme d'Israël et qui entend ces choses-là comme ça. Il se dit, il y a quelque chose qui tombe par an là-dedans. Vous comprenez ce que je dis? C'est un peu les images que je citais, Joseph rencontrant la femme de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar lui a dit « Tu es à moi », en hébreu ça se dit « Atal ». Eh bien, comment ça se passe? Enfin, tu es venu, Théophore, porteur de Dieu. Et puis, avec un petit clignement d'œil malin, moi, je suis athée. Résultat, fureur de la femme de Potiphar. Le camp de concentration, tout de suite, dans la fosse. Vous voyez à peu près le... Ça s'appelle le fureur. Alors, je vous lis ce chapitre. Et il faut se méfier de ces choses-là. C'est présenté à la page d'avant. Alors, Veya, qui avoue à l'écha qu'on a devoir imaginer.
Donc, paracha.
Ma
Donc, paracha.
Nitzavim. Chapitre 30. Alors, voilà, la première expression, c'est au verset 2. Meshapta ad Hashem Elokecha. Voilà. Et tu reviendras jusqu'à Hashem Elokecha. Pas plus. Ensuite, Veshav Hashem Elokecha Shevutral. C'est lui qui te ramène. Ve'eichamcha. Veshav et Kibetzra Mikola Amin. Te ramène le retour. Alors après, vous avez Mal Hashem Elokecha. Et Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Quand tu seras revenu, l'Ahavait Hashem Elokecha, afin d'aimer Hashem ton Dieu, pas seulement d'en parler dans des thèses de doctorat, ou dans des livres à sensation, et à la fin, il y a le Shabta El Hashem Elokecha. Voilà, vous voyez à peu près le rythme. Je crois que ça touche un peu à ce phénomène que vous avez décrit tout à l'heure. Bien, alors écoutez, et donc ce que nous avons à distinguer, c'est les temps du Mashiach, Yamot HaMashiach. Ça veut dire c'est ce monde-ci, mais mis au point, en ordre, que ça vaut la peine d'être vécu, avec le goût de la vie kasher. Donc, ça c'est ce qu'on appellera Malchut Mashiach, Malchut Israël, la société messianique. Et cette société messianique-là, ce n'est pas le fin du fin, c'est la transition entre Olam Hazeh et Olam Haba. Alors, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Là, nous ferons peut-être, si vous voulez, une page de la Gemara où la Gemara dit Aïn Rata, aucun œil l'a vu. Mais on peut pressentir. Elle donne deux images. Non, je vais en citer une seule. C'est le vin, dit-elle, la Gemara, Yaïn Ameshumar Be Anovav, Mishéchet Yemé Breshi. C'est le vin qui se mature, qui se prépare dans ses raisins depuis les six jours du commencement. Okay. Vous vous rappelez de cette expression? Ça veut dire qu'il y a un pressentiment de cela. Je crois que l'image, ça je l'ai entendu de M. Gordin, l'image la plus claire, c'est il faut demander aux enfants. Les enfants, avant qu'ils soient contaminés par le col primaire, fut-elle supérieure, enfin par l'université, okay, qui ont gardé la pensée humaine authentique, non secondarisée, non empoisonnée, et parle de ce monde-là. Ils sont capables de voir à travers ce monde-ci de quoi il s'agit. Dans un monde authentique. Et il vous parle du Olam Haba et vous croyez que ce sont des contes de fées. Et quand vous leur racontez, vous, des contes de fées, ils se disent, bon, ça, c'est les adultes. Oui. Et c'est ce que je disais au début du cours. Et c'est les enfants et les prophètes. Les prophètes parlent du monde des enfants à l'échelle adulte, lucide. Okay. Et c'est pourquoi, par exemple, la Gemara dit, le monde repose sur le souffle des petits-enfants qui étudie la Torah. Pourquoi les petits-enfants demandent la Gemara? Le maître qui a cité ça dit, et nous? Il dit non, les petits-enfants, parce qu'ils n'ont pas encore goûté le goût de la faute. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore, allés à l'école. Est-ce que c'est clair? Ils sont encore au Heder. Mazé Heder, Hesed Din Verahami, dans cet ordre-là. Mais ils ne sont pas allés à l'école. Dès qu'ils vont à l'école, eh bien, ils sont empoisonnés. Et alors, leur souffle devient le souffle des adultes. Comme vous savez, et ils ont contracté la maladie des adultes, comme dit le prophète, ça s'appelle adultère. Et vous savez que chaque fois qu'Israël est idolâtre, le prophète le traite de femme adultère. Et vous savez ça. Bon, alors je pense qu'on va s'arrêter là. Ken? Attendez, vous avez ces dames avant, là et après.
Vous avez parlé donc de ce royaume océanique qui devient possible quand il y a un seul, c'est-à-dire un minimum d'hommes qui sont capables de recevoir.
Oui.
Mais est-ce que tous les hommes sont égaux devant cette capacité de recevoir le
destin? En principe, au point de départ, oui. Et ensuite, chacun a fait de lui ce qu'il a fait de lui. Mais ils sont, ces 600 000 là sont les délégués de l'humanité entière. Attendez, madame, et pas après vous, après vous. Okay.
Et donc, si j'ai compris, à chaque génération,
c'est
quelqu'un qui est prêt à être le
Messie. Oui. Bon, est-ce qu'il le sait? Non. Non, il ne le sait pas. Parce que s'il le savait, il aurait un défaut. C'est de le savoir. Mais, évidemment pas. Mais il fonctionne. Vous comprenez? Et quand je vous dis aujourd'hui, il fonctionne, c'est ça que je fais allusion souvent. Il faut lire la Gemara, des choses simples. Quand on nous dit toute une liste de signes auxquels on peut diagnostiquer qu'on est sorti du potentiel, c'est passé à l'âme. Des signes incompréhensibles. Et puis finalement on dit, il y en a un, c'est clair. Quand il y aura des arbres sur les collines de Judée. Eh bien, il y a des arbres sur les collines de Judée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Non, ils viennent voir, il y a des arbres. Oui, c'est une erreur. Quoi que c'est une erreur? Qu'il y ait des arbres ou que ce soit écrit? Est-ce que c'est clair? Et alors, je vous dis la manière dont je l'ai entendu du Rav Kook, la première fois qu'il me l'a dit, ben, c'était pas pourri, mais ça aurait pu. Il a dit, nous mangeons des tomates juives au bout de 2000 ans. Okay? Nous mangeons des bananes saintes. Il nous a dit, à bananos, c'est quelque chose. Alors ça veut dire qu'il fonctionne. Bon, il y a aussi d'autres choses, mais on ne se rend pas compte. Tout simplement, on ne se rend pas compte. Venochal, mi piria, venisbar, mi touba. On a prié ça pendant 2000 ans. C'est arrivé, on ne voit pas que c'est ça. Okay? On ne voit pas que c'est ça. On a tellement attendu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a oublié. On ne reconnaît pas ce qu'on a attendu. Et pourquoi? Alors voilà. Monsieur, et puis après, c'est pour demain.
Alors, vous parlez au fait qu'il y a un petit acquis par Rome. Il vivait dans la légalité à travers Romain. Il y a quelque chose qui m'échappe. Vous parliez par rapport à la Torah, vous parliez par rapport au système romain dans sa légalité. Parce que la Torah, finalement, a toujours
existé. Écoutez, attendez. Est-ce que vous étiez là depuis le début aujourd'hui?
Pardon?
Vous étiez là depuis le début de la Torah?
Non.
Ah.
C'est pour ça.
Regardez, il ne s'agit pas du 4e siècle, mais du 4e empire.
Oui, du 4e empire.
Pardon. Oui. Et ça veut dire que ce 4e empire a donné à la civilisation humaine la notion du droit, de la légalité. Et il s'agit de la légalité du fait social humain en général. L'échec a été que cette légalité qui est indispensable à la société s'est érigée comme critère essentiel et a évacué la moralité.